Cette semaine sur RCF, trois journalistes et Charles Declercq vous donnent rendez-vous pour un débat. Quatre critiques cinéma sans coup. Voici les quatre sans coup.
Dimanche 1er décembre, c'était la journée mondiale du sida. C'est aussi une thématique qui touche beaucoup la communauté LGBT. Et c'était aussi l'occasion pour l'évêque de Liège, à Liège, de présider une veillée de prière à cette occasion-là avec une communauté de chrétiens gays. Occasion pour nous aussi de mettre ce thème, l'actualité du cinéma LGBT, dans le cadre de cette émission Les 400 coups. J'ai le plaisir de recevoir Élie Mastourou, qui travaille à Métro et l'Avenir, si je crois.
Bonjour.
Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Alain Depré.
Bonjour.
Vous travaillez pour quel média ?
Pour Mad Movies et pour un webzine qui s'appelle Post-Tap Magazine.
Et enfin, Stanislas Hyde.
Bonjour.
Vous travaillez pour la RTBF et pour Métro.
En collaboration, oui.
En collaboration, oui. Alors, je remercie Stanislas d'être venu remplacer au pied levé un collègue et ami qui s'appelle Fred Arens, qui aurait dû participer à cette émission, mais il est cloué au lit. Alors Fred, on te dit vraiment bonjour depuis le studio.
On pense à toi.
Voilà. Et donc, merci donc à Stan de te remplacer au pied levé. Et donc, Fred, il était programmateur notamment au Pinscreen Festival. Mais voilà, une grippe, ça peut clouer n'importe qui. Donc, on va partir sur le thème du cinéma LGBT. Je propose d'abord, peut-être, on avait préparé cette émission en se disant que partir d'un film LGBT qui nous a touchés, marqués. J'ai commencé peut-être par vous, Alan.
Ah oui, tout à fait. Ben, en fait, ma découverte du cinéma LGBT, elle s'est faite par un biais assez particulier. Donc, c'est-à-dire qu'à une époque, j'avais tendance à chercher les images un peu transgressives ou extrêmes, alternatives. Et donc, ma découverte du cinéma queer ou LGBT, elle s'est plus faite en découvrant l'œuvre de Kenneth Anger, dont je suis devenu un grand fan, et plus particulièrement de Scorpio Rising. Donc son film avec des motards qui pour moi a autant été un choc esthétique et un choc érotique d'une certaine façon, parce que j'avais été assez sidéré par la puissance des images, par pas mal de choses aussi. C'est une œuvre très riche, malgré sa durée, parce que c'est plus une sorte de moyen métrage, même si on est d'accord que c'est un terme un peu bâtard. Mais voilà, c'est toute une bande de motards iconisés, leur corps moulé dans des tenues de cuir. Il y a toute une sensualité dans la façon de saisir leurs gestes quand ils se préparent pour monter sur leur bécane. Il y a une symbolique érotique aussi assez nette. À un moment, il y a un plan sur un motard en contre-plongée qui surplombe un cône qui est dressé juste en dessous de son entrejambe. Donc voilà, c'est assez clair. Et il y a tout ce plaisir de Kenneth Anger à filmer les corps aussi. Et c'est, oui, ça a été très fort chez moi. Et par la suite, j'ai découvert pas mal d'autres choses, y compris les films de Bruce LaBruce, donc qui sont plus ouvertement érotiques, voire même encore plus explicites pour certains. Et j'en ai vu un, en tout cas le tout premier que j'ai découvert, c'était Skinflix, donc son film avec des nazis gays, mais qui évidemment refoule un peu leur pulsion, et qui est un film très curieux, voilà, comme beaucoup de films de Bruce LaBruce d'ailleurs. Et aussi, voilà, par le biais de la littérature, j'ai lu des auteurs comme Peter Sotos, par exemple, que je conseillerais pas aux cœurs les moins bien accrochés, voilà, aux auditeurs peut-être aussi. Donc je l'ai découvert en lisant Égoïste infime, qui est quand même assez radical.
On va passer à Élie, votre première expérience, ou celle qui vous a marqué en fait.
Oui, bah, j'ai pas mal réfléchi à cette question pendant qu'on préparait l'émission, et en fait... je pense que moi c'est arrivé plutôt donc moi j'ai grandi dans les années 90 en regardant voilà un petit peu la culture populaire qu'il y avait à ce moment-là et moi je pense que il y avait toujours une certaine conscience que c'est un sujet qui existait mais effectivement, c'était plutôt à la marge de ce que la pop culture nous proposait. Hein. Enfin, moi, j'ai grandi, voilà, je vous citais Titanic, je vous citais ce genre de choses-là, que ce soit Maman, j'ai raté l'avion ou des films Disney. Mais je pense que c'était là sans être vraiment là, sans être vraiment abordé. Et je pense que la première fois, moi, j'ai un souvenir précis. Par exemple, en 1999, il y a le film Cruel Intentions qui sort au cinéma. Alors, les traducteurs, comme d'habitude, avaient trouvé un très beau titre français qui s'appelait Sexe Intention. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et alors, je me souviens que j'ai réussi, je ne sais pas comment, à convaincre ma grand-mère d'aller voir ce film, de m'emmener voir ce film au cinéma. Alors, on est en Grèce en 1999, j'ai 13 ans. Et il y a mon petit frère aussi qui est là d'ailleurs, qui a 11 ans, c'est formidable. Je sais pas, c'est pour ça on a convaincu ma grand-mère de nous amener voir ça. Et alors, donc c'est un film qui est basé sur c'est Chauderlot de Laclos, les liaisons dangereuses, mais adapté pour les années 2000, on est en 99. Et il y a cette scène à un moment très, très forte où il y a Selma Blair et Sarah Michelle Gellar qui s'embrassent. Enfin, c'est Sarah Michelle Gellar qui embrasse Selma Blair, qui l'initie à comment embrasser avec la langue. Donc c'est un gros plan, c'est bien explicite. Et c'est le moment où ma grand-mère s'est levée et m'a prise par la main et m'a fait sortir du cinéma. Donc voilà, ça, c'est un souvenir qui m'a fort marquée. Et je pense que c'est par ce genre de représentation-là que moi je suis rentrée dans cette question du cinéma LGBT de représentation. C'était quand même la même année quand même où est sorti 1929, où est sorti Wild Things, qui est un film où à nouveau ça a été traduit en français par Sex Crimes. Donc voilà, il y avait vraiment une intention très claire. Et donc c'était Neve Campbell et Denise Richards qui dans ce film ça jouait sur les relations potentiellement saphiques entre les deux filles, mais c'était quand même une image de lesbienne, mais plus pour le regard masculin, hétéro. C'était, pour moi, cette forme d'homosexualité, pour nous, avait été présentée à travers le regard masculin comme quelque chose de sulfureux, de transgressif, aux yeux du regard mâle hétéro qui restait quand même le spectateur principal en tête. Donc moi, dans mon adolescence, c'était cette image-là un peu transgressive, un peu sulfureuse, un peu cool, comme ça, un peu borderline, je dirais.
Stanislas.
Pour moi, le souvenir le plus marquant, il vient pas de ma jeunesse, il vient plutôt de la fin de mon adolescence. C'est le film Crazy de Jean-Marc Vallée, qui, en fait, pour la première fois, m'a offert un personnage, un héros, dans lequel je me reconnaissais. Joué par Marc-André Grondin. Et donc, oui, moi aussi, j'ai grandi dans les années 90, et à cette époque-là, le personnage gay, jeune, habituellement, était un personnage qui souffrait énormément, qui devait se cacher, qui acceptait facilement de se cacher. Je pense à Jack, le personnage dans Dawson Creek, la série. Et il y avait aussi Pédale Douce, alors là, on était carrément ridicule. Les comédies ne faisait pas trop mal à ces personnages, mais on était clairement là pour rigoler et pas se prendre au sérieux. Et donc là, on avait un personnage qui a 17 ans, qui n'accepte pas son identité sexuelle, son homosexualité, et qui essaie de la rejeter vraiment pendant tout le film. Et j'ai enfin vu un personnage qui, en fait, n'aimait pas ce qu'il traversait, et qui devait quand même traverser cela pour finir par s'accepter. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment remué. Et je dirais donc ça, c'est la première image très très forte du cinéma LGBT que j'ai reçue dans les yeux.
Normalement, je n'interviens pas dans cette émission, puisque je ne fais que l'animer, mais j'ai quand même un souvenir, et c'est en 2005, j'ai découvert le film Brokeback Mountain de Ang Lee. Je connaissais ses autres films, là il entrait dans une autre thématique, j'avais été très déçu par Hulk, mais là j'ai vraiment été très surpris, et à tel point que deux jours après, j'ai invité une de mes amies à aller revoir le film avec moi. Elle est allée à Kinépolis, elle est allée avec son mari et ses enfants, majeurs, hein, donc, mais elle a été également touchée par ce film, et ce film m'a vraiment touché au plus profond, notamment par sa musique, à tel point que j'écoutais constamment ses accords de guitare, c'était assez impressionnant pour moi. Il y avait quelque chose d'organique dans ces accords de guitare. Et j'ai une petite anecdote qui va peut-être scandaliser nos auditeurs, mais un jour, j'étais vicaire à Saint-Julien, j'écoutais cette musique et j'ai oublié d'aller célébrer une Eucharistie. On me téléphone en me disant « Monsieur le vicaire, où êtes-vous ?» Et donc, voilà, donc comment ça m'a marqué en 2005. Donc, voilà. Non, monsieur le curé, parce que j'étais déjà curé à cette époque-là.
La magie du cinéma, voilà.
La magie du cinéma et comment elle peut vous toucher. Je propose, puisqu'on a fait part de cette expérience, d'écouter un choix musical. C'était celui de Fred. Hein. C'est un extrait comme ça on aura plus de temps pour les autres parties de l'émission, un extrait de Happy Together de Wong Kar-wai. Et comment on prononce cette affaire-là? Kourou-koukou. Voilà.
Donc, que tu le tiens.
C'est un extrait de la bande-annonce.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
C'est un extrait de la bande originale et pas de la bande-annonce de Happy Together. On va passer à un autre thème et je propose à Élie Mastorou de le lancer. Élie, c'est à vous.
Alors, moi, je vais. Ce que j'ai fait dans ma partie, c'est que je vous propose de rester dans la continuité donc de ces souvenirs, de ce partage de premiers souvenirs et de premières émotions de cinéma. Voilà la discussion qu'on a eue tous les quatre ici, où on a partagé une des premières émotions queer ou gay, en tout cas des premières émotions de cinéma. j'ai amené cette question à quelques réalisateurs et réalisatrices du milieu LGBT, dont j'ai voulu un petit peu faire passer la parole ici pour qu'ils nous racontent aussi un premier souvenir, un film comme ça qui les a touchés. Et alors du coup, on va commencer par les lesbiennes parce que je trouve ça toujours plus sympathique. J'ai demandé à Anna Margarita Albelo, qui est une réalisatrice américaine et cubaine, qui a réalisé notamment le film Who's Afraid of Vagina Wolf, pour les connaisseurs, et qui a travaillé qui a été membre du jury à la Queer Palm, donc la récompense LGBT du Festival de Cannes. Alors Anna Margarita Albelo, elle m'a parlé de Yentl. Alors, je ne sais pas si vous situez, film des années de 1983 avec Barbara Streisand, qui est le premier film, donc il me semble, écrit, produit et interprété par une femme. Donc, Barbara Streisand était une grande précurseuse. Donc, le film suit une jeune fille juive, donc Yentl, dans la Pologne du 19e siècle, qui veut apprendre le Talmud plus que tout. Mais devinez quoi, c'est interdit aux femmes. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle se déguise en garçon. Elle va infiltrer une yeshiva, tomber amoureuse de son meilleur copain et se marier avec l'ex du mec qui finalement tombe amoureux. Enfin bref, il y a toute une intrigue, me raconte Anna Margarita. Mais elle dit pour elle, en fait, elle était déjà une grande, grande fan de Barbara Streisand. Elle me dit j'ai toujours été gay, voilà, c'est bien la preuve pour elle. Et donc, le fait qu'elle produise, qu'elle chante, qu'elle fasse son premier film et qu'elle gère tout ça, pour moi, c'était vraiment une représentation très puissante pour les lesbiennes. Et j'étais le voir deux fois au cinéma. Elle me dit, ça m'a complètement bouleversée. Et le fait aussi qu'elle jouait avec cet aspect de la féminité. Enfin, voilà, le fait qu'elle se déguise en garçon, qu'elle joue complètement avec ces aspects-là et que du coup, ça lui donne... Ce déguisement lui confère une indépendance. Voilà, c'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. J'ai demandé aussi, alors pour ceux qui connaissent, c'est Marine Drico, qui s'appelle aussi Bilou, qui est une réalisatrice de courts-métrages et de clips, notamment en Belgique, à Bruxelles. Et qui, je pense à toi Stan, parce qu'elle a cité tout à fait aussi Jack de la série Dawson's Creek. Donc, parce qu'effectivement, peut-être... Il y avait le cinéma, mais la télé et les séries ont aussi beaucoup, dans les années 90, contribué à ça. Donc elle me dit voilà que le personnage de Jack, pour elle, c'était le premier qu'elle avait vu aussi à la télévision, une représentation. Mais qu'effectivement, ça tournait toujours souvent autour du fait qu'il était seul, qu'il était incompris. Donc il y avait vraiment ce côté-là. Mais c'est qu'après, donc Bilou, Marine Drico me raconte que c'est à partir de ses 17 ou 18 ans qu'elle a commencé à voir une série comme The L-Word et qu'elle a vu pour la première fois des filles à l'aise et qui sont fiers de ça. Mais pour revenir quand même au cinéma, donc Marine Drico m'a parlé de Les Créatures Célestes, Fierce Creatures, donc un film avec Kate Winslet, du début des années 90, j'ai pas la date exacte, pardonnez-moi Kate Winslet. Donc elle me dit que c'était une histoire d'amour entre deux filles, et elle me raconte, donc Marine Drico me raconte que c'était la première fois que je voyais ça, et ça m'avait mis dans un sentiment d'angoisse pendant plusieurs jours. J'essayais de trouver des copines autour de moi pour en parler. Je pense que c'était parce que c'était un amour interdit. Et donc, du coup, c'est ça qui était très fort pour elle, parce qu'elle me dit j'étais déjà lesbienne et ça m'avait vraiment fait l'effet de... Ça va pas être facile, ma louloute. Hein. Donc voilà, c'était... c'est donc Les Créatures Célestes, est un des films qui l'a le plus marqué. Je vais conclure aussi, j'ai demandé quand même à des réalisateurs. J'ai Franck Finance Madurera, le cofondateur de la Queer Palm, qui m'a cité Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, qui est aussi un film que Laurent Micheli, le réalisateur de Lola vers la mer, un film qui va sortir sur nos écrans le 11 décembre, qui était donc Les Roseaux Sauvages, Franck me dit que c'est la découverte de soi quand on se sent seul au monde, par exemple. Laurent Micheli me cite aussi John Waters, qu'il a découvert plutôt au début de l'âge adulte. Et pour lui, c'était une initiation à la pensée queer, quelque chose de très transgressif, politique, complètement, complètement barré. Et puis, j'aimerais pour finir citer David Lambert, qui est un réalisateur belge, qui a réalisé Hors les murs notamment, et qui me parle de My Own Private Idaho, qui a été pour lui un film très fort, parce qu'en plus, il était adolescent, il vivait dans les Ardennes, il fallait prendre le train pour aller à Liège ou à Bruxelles pour voir ces films-là, c'était vraiment un pèlerinage. et que donc le personnage de River Phoenix voilà, l'a bouleversé, que c'était très fort pour lui, cette quête de liberté et d'amour.
Un grand film de Gus Van Sant, Stan.
En parlant de Gus Van Sant, il y a une scène, ça me revient maintenant que j'entends parler de My Own Private Idaho, dans Elephant, où le héros embrasse
sous la douche
un de ses compagnons de classe. Et je me souviens à l'époque n'avoir pas compris cette scène. Aujourd'hui, je la comprends. Donc, il parle de l'isolement justement de ce personnage, sans vouloir tout rendre noir ou blanc. Et oui, donc Gus Van Sant, c'est sur plusieurs films, on peut monter là-dessus.
Effectivement, ouais.
Alan, on n'a plus beaucoup de temps, mais allez-y.
Est-ce qu'il y a des films comme
oui,
ça
ouais, des films
que j'ai cités qui vous font réagir.
Il n'y a pas d'obligation.
Par rapport à Gus Van Sant, oui, évidemment. Même dans Drugstore Cowboy aussi, enfin, il y a des visions assez fortes. Et My Own Private Idaho aussi. Non, c'est très, très fort aussi. Et River Phoenix est sublime là-dedans. Hein. Mais
il n'y a pas peu d'amour lesbienne chez Gus Van Sant.
Non, effectivement. Bah, c'est ce qui est. Moi, si je peux me dire, c'est un podcast que j'ai écouté qui est quand même très intéressant et qu'il faut absolument citer pour préparer cette émission. C'est quand même Sortir les lesbiennes du placard, qui est un podcast Radio France présenté par Clémence Alzard.
On mettra les liens en même temps que le podcast.
On en parlera. Mais qui commence en faisant quand même ce constat et qui est un constat que Marine Drico, par exemple, me dit aussi et que la comédienne Anna Gadsby partage. C'est qu'il y a déjà, il y a un manque de représentation du cinéma gay, mais à l'intérieur du cinéma gay, il y a un manque de représentation du cinéma lesbien.
De quelque chose, Gus Van Sant, il y a aussi Evan Cogirl,
Get the Blues,
qui est un peu surprenant dans sa filmographie, qui a été considéré comme un nanar, mais moi j'ai assez bien aimé.
Non, plus par rapport à un baiser entre femmes, moi ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est le baiser entre. Naomi Watts et Laura Elena Haring dans Mulholland Drive. Ça a été un émoi érotique assez fort et je trouvais que c'était d'une sensualité dingue. Voilà, après on peut peut-être dire que c'est aussi vu d'après une vision un peu hétéronormée de la chose, mais je trouvais que c'était une scène d'une sensualité folle, ouais.
Donc, encore quelque chose, Stanislas ?
Oui, je dirais qu'on pourrait pousser la question du souvenir encore un peu plus loin et aller jusqu'à Dolor y Gloria de Pedro Almodovar qui est sorti cette année, où justement, là, c'est un réalisateur qui va vers un vrai souvenir, pas un souvenir de cinéma, pour comprendre pourquoi il fait du cinéma. Je trouve que c'est un très, très beau film à voir si on veut se poser ce genre de questions.
En partie autobiographique.
Ouais, un des plus beaux films de cette année pour moi.
Largement. Alors, c'est le moment de la pause musicale. Normalement, c'était. C'est pas vous qui l'avez choisi, Ellie. Hein.
Oui, mais
vous pouvez en parler.
Je suis ravie de l'introduire parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc, on va parler du Rocky Horror Picture Show, qui est quand même un film très queer qu'on n'a pas encore mentionné. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc, c'est la chanson Damn It, Janet, qui figure autant dans la comédie musicale originale de 1973 que dans l'adaptation cinématographique de 1975. Musique et paroles de Richard O'Brien. Et mix de Richard Hartley.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
The river was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it, Janet. I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Here's the ring to prove that I'm no joker. There's three ways that love can grow. That's good, bad, or mediocre. Oh, Janet, I love you so.
You met Mom and you know Dad.
Oh, Brad.
One thing to say, and that's Brad. I'm mad for you too. Oh, Brad.
in his science exam it.
Janet.
Made me give you the eye and then panic.
Janet.
Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Damn it, Janet.
Pour la troisième partie de cette émission, j'ai commencé à céder la parole à Stan pour nous parler de l'évolution des personnages LGBT au cinéma.
On l'a déjà un peu évoqué dans les deux premiers chapitres de l'émission, je pense. Mais oui, la façon dont sont représentés ces personnages change beaucoup, change très positivement d'ailleurs, je pense. Avant, on était dans la suggestion, probablement, si je remonte loin dans l'histoire du cinéma, vers des personnages qui étaient négatifs ou qui, en tout cas, n'étaient pas les... Ensuite, quand on parlait d'homosexualité, de bisexualité au cinéma, on parlait plutôt donc, du personnage secondaire en pleine souffrance que le héros venait aider, donc quelqu'un, une victime qu'on vient sauver. Et donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, voilà, on est dans une ère positive où les personnages s'assument, sont heureux, sont pas forcément... entièrement héroïques, mais en tout cas sont réels et ne sont pas seulement définis par leur orientation sexuelle. Je pense qu'un très bon film pour mesurer ça, c'est Portrait de la jeune fille en feu, qui dépasse complètement le label de film lesbien. C'est pas du tout ça, mais c'est présent à l'écran et les personnages sont tout à fait existants. Et je pense aussi que cette nouvelle ère de streaming, de séries à tout va sur Netflix, Amazon, à ces aspects positifs aussi, puisque aujourd'hui on trouve plus facilement un public de niche et voilà, la communauté LGBT reste une minorité qui sur internet se mobilise beaucoup plus facilement que physiquement, et on voit dans des séries, on a parlé de The L Word, mais il y a aussi de nouvelles séries comme Sex Education qui est sortie l'année passée sur Netflix, qui mettent en avant des personnages s'ils sont hauts en couleur, en tout cas ils ne sont pas que définis par leur drapeau arc-en-ciel.
Alors on s'excuse, on a eu un petit incident de micro, c'est les aléas du direct, donc veuillez nous excuser. Allez-y.
Oui, moi je peux, voilà, c'est bon.
Allons-y, oui.
Ça ne bougera plus. Tout à fait, je pense que c'est un tournant aussi, moi quand je peux, par rapport aux films avec lesquels on a grandi des années 90, tout ça, c'est aussi qui raconte en fait, c'est qui s'approprie le récit, parce que jusque-là on a eu... On parlait de ce regard. On a eu des films qui peuvent raconter l'homosexualité, mais qui les raconte, c'était souvent des réalisateurs en général hétéros, cisgenres, et tout ça, qui racontaient à travers ce prisme-là quand même. Comme je parle du regard transgressif et tout ça, je pense que une des choses qu'Internet et effectivement les années 2000 ont apporté, c'est aussi la réappropriation de certains récits, et via les réseaux sociaux et via Internet effectivement aussi, ces communautés-là peuvent s'échanger des films, peuvent échanger entre eux et tout ça, et se réapproprier eux-mêmes les règles de récit, comme pas mal de films que Stan a cités aussi, qui ne me viennent pas là tout de suite en tête, mais il y a Kimberly Pierce aussi, notamment après, depuis Boys Don't Cry, qui... Je vais passer la parole à Alan qui va poursuivre.
Alan, signalez quand même que vous avez collaboré à un ouvrage collectif consacré à la censure au cinéma, et que vous avez écrit un article notamment, mais vous en avez écrit d'autres, sur la censure dans le cinéma homosexuel.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai participé au dernier volume de Darkness, censure et cinéma. Donc, c'est une collection de livres chapeautés par Christophe Triolet, qui est juriste de formation, entre autres choses. Et donc, le dernier volume était entièrement dédié à l'homosexualité, mais plus avec le versant censure. Et dans celui-ci, j'avais écrit un article plus centré sur Cruising de William Friedkin et sur Interior Leather Bar, donc co-réalisé par James Franco
et Travis
Matthews. J'espère que je ne me trompe pas, je ne pense pas.
Je pense que c'est Travis Matthews.
Oui, et Travis Matthews, voilà, qui est assez connu aussi dans le milieu gay, parce qu'il avait réalisé toute une série dans l'intimité
à Londres,
des gays, à Londres, Berlin, etc., qui s'appelait In My Room, si ma mémoire est bonne.
C'est bien cela, oui.
Voilà, et c'était assez intéressant, parce que Interior Leather Bar est en fait une sorte de façon de revisiter les scènes perdues de Cruising. qui étaient des scènes quand même assez chocs et même relativement pornographiques, qui auraient été perdues et qu'on ne retrouvera plus. En tout cas, d'après les dires de William Friedkin.
Sur l'évolution des personnages, alors plus que sur la censure, vous avez quelque chose à ajouter ou...
Mais je pense que c'est très, très positif aussi, comme le soulignaient Stan et Ellie. Il y a vraiment, au niveau de la représentation, il y a pas mal de choses qui se font. C'est beaucoup plus libre aussi. Les différentes communautés commencent à être, de manière générale et sauf exception, mieux représentées. Et on laisse la voix quand même à de plus en plus de personnes. Et je pense que ces voix ont pu s'épanouir, comme mes confrères le disaient, grâce aux réseaux sociaux qui leur offrent quand même une tribune et qui leur permettent de se rassembler.
Quelqu'un, Stanislas,
oui. Oui, on le voit aussi à Hollywood, par exemple, dans la façon dont les acteurs traitent la question. Au moment d'accepter un rôle, il y a 25 ans, c'était peut-être vu comme quelque chose de courageux qu'un acteur hétérosexuel joue un personnage homosexuel. J'ai en tête Brokeback Mountain, par exemple. Jake Gyllenhaal et Heath Ledger ont été nommés pour leur rôle, je pense, dans ce film. Mais pour un acteur homosexuel, une actrice homosexuelle ou bisexuelle, de se présenter ouvertement avec sa sexualité annoncée et obtenir ensuite un rôle au centre d'une affiche, c'était impossible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, il y a une réelle évolution. Quelle est la poule, quel est l'œuf, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça va dans un bon sens.
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que ce serait plutôt problématique. Plutôt que ce soit applaudi, le fait qu'aujourd'hui, un acteur hétéro joue un homo, et ça, ce serait plutôt, on leur dirait, y a plein d'acteurs homo. Bon, ça relance aussi le débat de être, de paraître, d'acteur. On va peut-être pas rentrer là-dedans. Mais moi, ce que je voulais juste ajouter en termes de représentation, c'est que, du coup, plus je pensais en fait au cinéma pour préparer cette émission, plus en fait la télé me revenait. Je me suis demandé, c'est purement mon interprétation, mais dans quelle mesure, en fait, en parlant de marge, en parlant de, voilà, avant qu'elle investisse le cinéma mainstream, mais je me demande dans quelle mesure ça a pas commencé beaucoup par la télé, parce que pour moi, la première, je dirais, représentation de l'homosexualité saine, entre guillemets, hein, dans le sens où c'était pas Philadelphia ou Tom Hanks a le sida, c'était pas Boys Don't Cry où on est tabassé pour être différent. La première fois qu'il y avait quelque chose vraiment de célébré, pour moi, c'est dans Friends. C'est Carol et Suzanne, l'ex de Ross, et l'épisode notamment où elle se marie dans la saison 2. C'était une célébration et il n'y avait pas de conséquences négatives, quoi. Je pense que c'était même pour l'époque assez transgressif.
Allez-y, ensuite j'ai deux anecdotes à raconter.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Ellie. Et à la même époque sortait une série qui, moi, est une de mes séries de chevet. Je l'adore, c'est Will and Grace. Une série qui avait au centre des personnages homosexuels. Pas lesbien, même il y a des personnages lesbiens qui apparaissaient dans de nombreux épisodes et qui racontent donc l'histoire d'amitié entre un homosexuel et une femme hétérosexuelle, mais qui en fait est racontée comme un amour très problématique puisqu'il ne peut jamais être consommé. Et au long de 8 saisons, il y a une très très belle histoire justement sur leur incapacité à exprimer leur amour autrement qu'en s'engueulant ou en riant et en vivant ensemble.
Pour parler des acteurs, je reviens vers vous, Alan, mais des acteurs cisgenres, c'est-à-dire qui ont le genre assigné
à la naissance.
Dans la série Dawson dont on a parlé, l'acteur qui interprète Jack, mais je n'ai pas son nom, avait fait exiger par contrat pas plus d'un baiser avec un garçon par saison.
Oui, d'accord.
Donc c'était vraiment.
Aujourd'hui, ce serait l'inverse.
C'est ça, je veux bien y aller, mais pas trop non plus.
Et Michael Winterbottom dans Nine Songs. Il avait demandé à son acteur principal en disant: est-ce que tu acceptes qu'il y ait des scènes de sexe non simulées? Il avait dit oui, tant que ce n'est pas avec des hommes. Et donc, c'est de dire quand même les impensés qui est là-bas.
Oui, les barrières.
Les barrières.
Et aujourd'hui, tout Hollywood frappe la porte de Ryan Murphy pour jouer ce genre de rôle. Donc voilà, c'est bien.
Ouais. Ça a évolué positivement.
On a encore une minute. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec Stan et Ellie. Je pense réellement que la télé a ouvert un peu la boîte de Pandore. Et ça a permis une représentation et en tout cas un parcours des homosexuels à l'écran, qui s'est éloigné de sa dimension un peu sacrificielle et doloriste aussi, comme on avait avant, où c'était vraiment une sorte de chemin de croix, où les personnages souffraient énormément. Là, on est de retour à quelque chose de beaucoup plus naturaliste, qui ressemble à la vraie vie aussi, et de plus positif aussi dans la plupart des cas.
Et dans des séries comme promues par Netflix, il y a maintenant des personnages gays et lesbiens qui n'ont apporté aucune justification. Ils sont là, sans condamnation, sans hyper-visibilité, mais ils sont présents de façon naturelle, entre guillemets.
C'est un peu une grande mode.
C'est un peu, je pense que ça va être un des... On n'aura pas le temps vraiment de l'aborder, je pense, dans cette émission, mais il faut quand même la mentionner. Je pense que l'un des prochains enjeux aussi du cinéma LGBT, c'est la question de la transidentité aussi, qui commence doucement. Il y a des films qui commencent à l'aborder, que ce soit dans le cinéma francophone ou que ce soit aux États-Unis. Je voulais juste quand même juste mentionner quand même un film qui est sorti cette semaine sur nos écrans, qui s'appelle Can You Keep a Secret, donc qui est un film d'Élise Durand avec Alexandra Daddario. C'est une petite comédie romantique que je ne vous conseille pas outre mesure, mais par contre, ce qui est intéressant, ce qui est original, c'est que une des collègues de l'héroïne est incarnée par Laverne Cox, qui est donc une des héroïnes transgenres de Your Orange is the New Black, et qui joue une collègue de boulot de l'héroïne principale. Et le fait que ce soit une personne transgenre n'est absolument pas mentionné, c'est complètement anecdotique. Et ça, je trouve que c'est vraiment la prochaine étape.
On va passer à la dernière pause musicale. C'est vous qui avez choisi cette pause, Alan, un peu surprenante. Donc, certains en profiteront peut-être pour aller se désaltérer pendant le temps de la pause musicale. Allez-y, Alan.
Voilà, déjà, c'est surprenant parce que c'est une chanson de rap français. Et d'habitude, ce n'est pas des thématiques qui sont abordées, même si ici, elle est beaucoup plus effleurée, mais dans ce cadre-là. Donc la chanson s'appelle « Les garçons et les filles » du rappeur parisien Hyacinthe, donc une chanson extraite de l'album « Rêve » qui était sorti dans le courant de l'année 2019. Donc c'est une chanson assez dansante, mais qui sointe un peu l'hédonisme, la fête en club, aux heures tardives, etc., les corps qui ondulent, qui se frôlent, qui transpirent. Et c'est surtout et avant tout un morceau qui fait un peu figure d'anomalie dans le rap français, parce que le rappeur, donc Hyacinthe, se pose un peu en objet sexuel et en objet de désir, autant pour les hommes que pour les femmes qui sont sur le dance floor. Et donc, je trouvais ça assez interpellant.
On va écouter ça, les garçons et les filles.
Je danse comme une pute sur le dance floor. J'ondule comme le Christ sous la lumière du flash. Bébé dans ma tête, c'est le désordre. Faut bien qu'on vive avant le crash. Les garçons et les filles me regardent. Me veulent pour finir la nuit. Les garçons et les filles me regardent. Et j'ondule entre les garçons et les filles. La nuit coule leur vente aux lunes. Faire la fête, sauter dans le vide. Et ce soir, la jeunesse fête l'oubli. Et les cœurs font des loopings. Arrivé ivre mort pour me sentir en vie. Le prince de la ville, ville, ville. Je traîne, je suis au bord entre un garçon et une fille. Je crois que les deux me kiffent, kiffent, kiffent. Je danse comme une pute sur le dance floor. J'ondule comme le Christ sous la lumière des flashs. Bébé dans ma tête, c'est le désordre. Faut bien qu'on vive avant le crash. Les garçons et les filles me regardent. Me veulent pour finir la nuit. Les garçons et les filles me regardent. Et j'ondule entre les garçons et les filles. Dans les entrailles de la ville, c'est là que rugit la fête. Ils dansent et dansent toute la nuit. Les jeunes brillent comme internet. Toutes les mains vers le ciel, comme s'ils nous regardaient. Danse comme Jésus de Nazareth. Les têtes tournent comme des toupies. Je ne veux plus rien me souvenir. À mon or était soupir. Et ça me suffit, ça me suffit. Vu d'en bas, les flashs ressemblent à des anges. Je crois qu'ils me regardent quand je danse. Je danse comme une pute sur le dance floor. J'ondule comme le Christ sous la lumière des flashs. Bébé dans ma tête, c'est le désordre. Faut bien qu'on vive avant le crash. Les garçons et les filles me regardent. Et tous me veulent pour finir la nuit. Les garçons et les filles me regardent. Et j'ondule entre les garçons et les filles. Les garçons et les filles me regardent. Les garçons et les filles me regardent. Les garçons et les filles me regardent.
fait effet.
Nous voici à l'antenne pour l'avant-dernière partie de l'émission. Donc, avant les coups de cœur et les coups de gueule, ce sera une partie consacrée au cinéma LGBT en Belgique. Qui veut commencer ? Pas Stan ?
On va tirer à la courte paille. Qu'est-ce qu'on peut. On en parlait avec Stan avant d'arriver à l'émission sur la place de la question LGBT dans le cinéma belge. Et il faut dire que c'est assez compliqué de base. Moi, spontanément, je pense à Chantal Akerman, même si je pense qu'elle-même, je suis pas sûre qu'elle avait envie d'être cataloguée, quoi. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient en avant, qui est plus assumé aujourd'hui, parce que je pense qu'à l'époque, plus à l'époque qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qui pouvait être un frein, en fait, qui pouvait être un obstacle. Donc du coup, moi, je peux parler de référence qu'à partir du moment où je commence à travailler, donc à partir des années 2010, avec des films comme ceux de David Lambert, par exemple, qui a signé Hors les murs dans les années 2000.
Oui.
La date m'échappe, mais c'était 2013-14 autour de là. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur des autres films plus évidents ?
David Lambert en a encore fait un autre dans une prison, oui.
Aussi, après Hors les murs, mais comme le nom ne me vient pas.
Voilà.
Mais je pense aussi à notre discussion d'avant l'émission avec Ellie, où on se disait que par contre les courts-métrages belges sont un peu plus honorables, ont un meilleur tableau de chasse. Et moi, je pense alors à Calamity de Maxime Feyers, où il y a un personnage trans qui apparaît, qui est au centre de l'histoire aussi, mais qui provoque de nouveau en fait, les émotions du personnage principal, malgré tout. Hein. Mais c'est quand même intéressant et c'est un beau film. Et il y a aussi Provence de Cato de Bouc qui a gagné l'Ensor du court-métrage à la dernière édition des Ensors, et qui est une magnifique histoire d'éveil adolescent d'une jeune fille qui découvre que son frère...
Okay.
Oui.
Et puis on a Laurent Micheli, si tu veux en parler, Alan.
Oui, par rapport à Even Lovers Get the Blues, je trouve que c'est un film qui lance certaines pistes assez intéressantes, mais qui est assez maladroit par d'autres aspects. En fait,
c'était un premier film. Hein.
C'est un premier film qui est sorti, donc rappelons, il y a en
2017 officiellement, mais il a été présenté au FIFA en 2016, où il a obtenu le prix de la critique.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Non, je le trouvais très intéressant. Il y avait pas mal de choses esquissées, mais je trouvais qu'il n'allait pas vraiment au bout des choses à certains moments. Esthétiquement, c'était très intéressant. Mais il y a quelques petites choses qui m'ont gêné, surtout d'un point de vue psychologique. Il y avait des choses pas très plausibles. En tout cas, cette histoire de ménage à trois à la fin du film, avec le mec qui se découvre gay, et en fin de compte, sa nana le prend très très bien, et ils rigolent, et ils finissent ensemble comme ça, dans une sorte de ménage à trois.
Vision optimiste. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que dans le cinéma belge francophone, en tout cas, je voyais aborder des sujets comme ça, la question du genre, la question de la fluidité, la question de la non-exclusivité, et puis aussi de l'homosexualité. Bon, c'est des choses qui tiennent à cœur aux réalisateurs aussi, mais je pense entre Joachim Lafosse, les Dardenne, Bouly Lanners, ces films-là, c'est assez novateur, Stan.
Oui, je pense d'ailleurs que ton étonnement, Alan, vient peut-être du fait qu'on voit pas souvent ces personnages. En fait, le film était très frivole, fantaisiste, s'autorisait même à aller vers la chanson de temps en temps. Donc le fait que les personnages soient pas conséquents par rapport à ce qu'on attend d'eux, c'est à attendre dans un film pareil, je pense.
Mais oui, exactement.
Un film où on vit vraiment l'instant présent, pas de problème. On vit l'instant présent et ce héros ou cet anti-héros dit « Est-ce que je dois vraiment choisir ? Est-ce que je dois choisir ?» Une question qui peut se poser plus aujourd'hui qu'hier.
Ouais, et donc le nouveau film de Laurent Micheli qui sort donc le 11 décembre sur nos écrans belges.
Mercredi
prochain, Lola vers la mer, qui pour le coup aborde l'histoire de la transidentité. Bon, c'est une histoire adolescente aussi, c'est une histoire de crise d'adolescence, mais à travers le choix que Laurent Micheli a fait de raconter l'histoire d'une héroïne transgenre incarnée par Mia Bollars, ça amène aussi, je pense, pour la première fois dans le paysage cinématographique belge francophone, ce genre de sujet. En tout cas, dans le long métrage. Pour le court-métrage, c'est comme tu parlais de Calamity, c'est des sujets qui ont peut-être, qui sont encore en gestation dans les futurs réalisateurs qui vont passer au long bientôt. Je pense qu'on va encore voir, on va être très surpris et il y aura beaucoup de choses. Mais pour l'instant, en termes de long métrage et de sortie cinéma, voilà, Lola vers la mer, c'est un des c'est le premier, quoi, je pense.
Il y a eu Girl, qui est un film flamand bilingue, qui posait quelques problèmes sur des questions de représentation et aussi du choix de l'histoire qu'on raconte. Mais il y a quand même eu ce film qui a aussi ouvert la question.
J'étais très cinéma belge francophone et je suis passée à côté du très bon de Lucas Dante quand même.
Pour dire que le film est bilingue, il n'est pas que flamand.
C'est vrai, c'est vrai. Le film de Laurent Michel est un tout petit
peu...
Il y a
un peu de flamand.
Est un petit peu bilingue aussi.
Et l'actrice transgenre qui est... que j'ai découvert une formidable actrice en écrivant le film. C'était son tout premier film, son premier rôle au cinéma. Et je dis, mais ça dépasse la question de... Faut-il être transgenre pour... J'ai d'abord découvert une actrice.
Ouais.
Donc, elle interprète très bien. Donc, rappelez... Enfin, Calamity, j'ai vu... C'est un court-métrage, je l'ai vu en avant-présentation du film de Laurent Micheli.
Au Bifilm.
Au Bifilm. Donc, il était en introduction. On n'était même pas certain qu'on le passait. Et je me dis, tiens... Et il y avait des questions intéressantes dans Calamity aussi qui étaient abordées sur, justement, l'identité. Moi, j'avais bien aimé.
Ouais, moi si je...
Allez-y, il nous reste juste 3 minutes.
Non, ça va, je le garde pour le coup de cœur.
Ok, ça va. Encore quelque chose ? Il nous reste 2-3 minutes.
Sur la Belgique, pas spécialement. Il y a beaucoup de coproductions. Moi, je citerai quand même François Ozon, qui tourne souvent chez nous. Il fait de bons films, il fait des films moins bons. Mais Goutte d'eau sur pierre brûlante, quand même, je le citerai, parce que c'est des personnages très queer, magnifiques, avec Bernard Giraudot.
Je l'ai jamais vu aussi transcendant dans ce rôle-là. Donc
Tout à fait. Malik Zidi, je pense, Ludivine Sagné et, pas étonnant, l'actrice trans, son nom m'échappe. Donc comme quoi, de temps en temps, ce sont les personnages les plus invisibles, malheureusement. Mais c'est un très bon film à voir, à revoir.
Allez-y, Alan.
Mais par rapport aux réalisateurs étrangers, plutôt, on n'a pas cité John Cameron Mitchell. Et ça a été assez fondateur chez moi, j'y avais pas pensé tout à l'heure, mais Short Bus, et avant Hedwig and the Angry Inch aussi.
Tout à fait, oui.
Mais peut-être même encore plus Short Bus dans sa façon d'être assez frontale aussi, dans la représentation des actes sexuels, entre autres, mais aussi dans cette façon de convier tout le monde, donc toutes les identités de genre, dans quelque chose d'assez hédoniste, où c'était d'assez joyeux, je trouvais ça important. Et pour peut-être un peu pour clôturer ça, je trouve qu'il y a plus que la question de la représentativité dans les années à venir, dans l'idéal, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question de la qualité ? Est-ce qu'une actrice transgenre pourrait pas jouer le rôle d'un hétérocis, par exemple, et vice-versa, sans que ça pose des débats sans fin sur les réseaux sociaux ? Même si, évidemment, c'est important qu'il y ait de plus en plus d'actrices trans, ou en tout cas d'actrices ou d'acteurs trans, qu'il soit représenté.
Mais moi, je dirais juste que c'est une question aussi politique, dans le sens où c'est en fait le politique et le cinématographique se rencontrent, et c'est une ligne très fine. Mais moi, je dirais juste que je pense que dans un monde idéal où tout le monde serait représenté et tout le monde aurait sa chance égale, que ce soit les personnes hétéros, les personnes cisgenres, les personnes transgenres, si tout le monde avait vraiment, vraiment sa chance, alors je pense qu'il n'y aurait pas de problème que n'importe qui joue n'importe qui. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas et qu'on n'est pas encore dans cette 100% de cette égalité de représentation. Donc je pense que c'est important. C'est d'autant plus difficile de trouver des personnes issues de minorités qui, en plus, sont les meilleures pour le rôle, quoi. C'est vraiment, au-delà de le prendre juste pour le prendre, il faut trouver des gens qui sont aussi qualifiés. Et donc, ça demande un double travail. Mais c'est un travail nécessaire et politiquement important à faire.
Je vais clôturer le débat ici pour passer au générique de la dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission, Amicalement Nôtre, avec le thème de Amicalement Vôtre, ou vice-versa, je ne sais plus. Mais on va donc présenter un coup de cœur ou un coup de gueule par invité, chacun à 1 minute 30 environ. Qui veut commencer ? Stanislas ?
Je veux bien commencer. je sors de mon chapeau mon coup de cœur, Andrew Hay, qui est un réalisateur britannique qui a fait ce magnifique film qui s'appelle Weekend. Donc c'est pas du tout récent, je pense que c'est sorti il y a 7 ou 8 ans, j'essaye de rester dans le thème. Et c'est l'histoire donc de deux hommes qui se sont rencontrés dans une boîte ou dans un bar et qui passent un week-end ensemble. Et ce film est très touchant, très beau. Et Andrew Hay a, dans la foulée, réalisé une série magnifique qui s'appelle Looking, qui consiste en 8 épisodes, je pense.
Il y a 2 saisons.
Il y a 2 saisons, donc c'est 8 épisodes x 2. Il y a un film qui clôt ces 2 saisons, mais qui n'est pas très intéressant. Mmh. On peut se contenter des 2 saisons. Et 3 personnages gays à San Francisco, dont un, le héros très très névrosé, interprété par Jonathan Groff. Et donc ça, c'est une série qui m'a beaucoup, beaucoup plu et touché droit dans le cœur.
Voilà, vous n'avez pas abusé de votre temps, hein, donc ça veut dire qu'il nous reste presque 2 minutes pour les autres invités. Qui veut commencer ? Ou poursuivre plutôt ?
Allons-y, hein. Moi je vais vous parler d'un documentaire belge qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et que vous pouvez encore rattraper lors de projections en Belgique. Ça s'appelle « Mon nom est Clitoris » de 2 réalisatrices sorties de l'INSAS, Daphné Leblond et Lisa Billuard-Monet. Alors, le clitoris, c'est quoi ? Où c'est ? Où le trouver ? Toutes ces questions qu'on s'est peut-être posées ou pas, mais qui reviennent dans l'actualité, c'est l'occasion de les aborder. C'est un documentaire, en fait, qui part d'un dispositif assez simple, voilà, qui va questionner des jeunes filles dans un dispositif intime, c'est-à-dire qu'elles sont souvent dans leur lit, dans leur chambre. Et c'est des discussions. Alors, c'est pas le dispositif tant que ça, c'est le contenu des discussions, en fait. Je trouve que ça passe très vite, en 1h20, en fait, elle commence à parler du clitoris, mais en fait, c'est un prétexte pour parler de tout, pour parler de sexualité, pour parler de fantasmes, pour parler de la famille, pour parler de l'école et pour parler de ce rapport en fait, à cette découverte de soi et de sa sexualité, alors que cette sexualité soit voilà, hétéro ou pas, qu'elle soit lesbienne. Il y a plein de filles d'horizons et d'orientations sexuelles différentes qui parle d'intimité et pour moi c'est un film vraiment d'utilité publique, il faudrait et surtout ce serait super que ce soit vu aussi par beaucoup beaucoup de garçons parce que je pense qu'il y a pas mal de filles qui ont envie de voir ce film. Ça s'appelle Mon nom est Clitoris et scrutez les projections sur internet et les réseaux sociaux parce qu'il est encore projeté notamment au cinéma Aventure à Bruxelles et c'était vraiment un de mes coups de cœur de ces fins d'année.
Et dire qu'elle commence par dessiner hein.
Oui, elle commence par le dessiner. Je mets au défi n'importe qui nous écoute de dessiner un clitoris. Je peux dire, je pense que c'est pas facile.
On va pas lancer trop le défi sur RCF. On va terminer avec. Il vous reste 1 minute 30, Alan.
Oui, ça doit être très technique à dessiner. J'ai jamais essayé.
N'y allez pas, Alan. Donnez votre coup de cœur, votre coup de gueule.
Ben mon coup de cœur, ce sera plutôt L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, qui je trouve est un film qui, dans les années à venir, devrait devenir fondamental aussi dans la représentation gay masculine à l'écran. C'est un film d'une très grande sensibilité malgré son sujet parce qu'il y a quand même une histoire de tueur au cœur du récit et d'une sensualité folle. Et sinon, ça, ce sera un peu l'instant faillot de l'émission. Mais je tenais à tirer mon coup de chapeau à Charles de Clercq qui a son émission Les 400 coups. Parce que c'est quand même de plus en plus rare qu'on donne du temps de parole à des journalistes cinéma en Belgique. Il y a de moins en moins d'émissions cinéma aussi. Et c'est une des seules émissions que j'ai à l'esprit où on peut parler à bâton rompu. Et d'ailleurs, oui, c'est très curieux parce que ton émission, enfin votre émission, est hébergée sur une radio chrétienne. Et donc voilà, je pense que c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit à la fois de votre part, que de la part de la radio en elle-même.
Merci beaucoup, Alan. Donc, il me reste à vous remercier tout d'abord, vous, Alan Depré. Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience, vos coups de cœur et vos passions. Merci à vous, Elie Masterou, d'être venu animer et donner votre voix féminine, une touche féminine à cette émission qui en a bien besoin parce qu'il manque cruellement de critiques femmes dans le milieu du cinéma.
Oui, j'ai une petite pensée pour mes quelques collègues. Merci Charles pour votre accueil.
Et merci à vous, Stan, d'avoir remplacé Fred au pied levé. Un tout grand merci.
Avec plaisir.
Et au plaisir de nous retrouver donc dans les salles.